culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Salut et bienvenue au Culte Espoir. C'est chouette de t'avoir avec moi pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Marilyn et Joachim. Salut l'équipe.
Salut. Bonjour.
Tout le monde est en forme?
En forme.
Oui, oui.
Super. Chaque semaine, les différents chroniqueurs de notre émission ont le privilège et aussi le défi de préparer une heure de culte pour toi, cher auditeur. Nous avons régulièrement des invités d'honneur qui nous apportent des réflexions très pertinentes. Aujourd'hui, nous recevons Rose Mélène. Sois la bienvenue.
Merci.
Comment ça va?
En forme, merci.
Et c'est merveilleux. Rose Mélène a commencé ses études de théologie à Trinité et Tobago et a continué son parcours universitaire sur le campus adventiste de Collonges-sous-Salève en France. Le thème que tu nous as proposé pour aujourd'hui, c'est la paternité de Dieu. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce thème?
Alors honnêtement, c'est mon expérience personnelle et Boris Cyrulnik qui parle de ce thème et je vais le présenter tout à l'heure.
Et on se réjouit. Et voilà, dans quelques minutes, tu pourras parler plus longuement sur ton sujet lors du partage biblique. Et c'est parti les amis, que Dieu soit avec nous et qu'il soit constamment loué par nos bouches. Voici la promesse du jour. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui, Joachim?
Alors, pour cette fois-ci, les versets se trouvent dans 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous saurons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors, nous lui ressemblerons. Dans une famille, ce qui constitue le lien entre ses membres, normalement, c'est l'amour. Les enfants le reçoivent et l'apprennent de leurs parents, puis ils le rendent et le réalisent entre eux. Ceci est une faible image de l'amour dont le Père nous a fait don, et nous appelons ses enfants. Cet amour, nous ne sommes pas appelés à le comprendre, mais à le voir, et en le constatant, à y répondre.
Merci Joachim pour cette promesse. Le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Quel privilège! Et le chant que je vous propose, bien, c'est un cri de victoire. Comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans une vie de liberté et abondante.
Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Sa promesse, je suis place. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. J'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Cette semaine, une amie m'a raconté une histoire et j'aimerais la partager avec vous. C'est une histoire vraie. Il s'agit d'un homme, un ouvrier. Cet homme a trois garçons. Un jour, il emmène deux de ses enfants, les deux plus grands, travailler avec lui. Il devait décharger un immense camion rempli de tuiles. Ce travail devrait prendre toute la journée. Il savait que ce serait épuisant car il faisait très chaud dans cette région. Vers 9 heures du matin, le plus jeune garçon, celui qui était resté à la maison, s'est mis à pleurer. Il aurait voulu aller au travail avec son papa. Sa maman lui a expliqué que sûrement son papa voulait le préserver de ce travail difficile, d'autant plus que le soleil tapait très fort. C'était certainement pour cela qu'il n'a pas été invité d'aller avec son père. Rien ne consolait cet enfant de 11 ans. Est-ce qu'il ne comprenait pas que ce n'était pas un jeu de décharger un camion de tuiles et que cela pouvait même être dangereux? Finalement, le garçon a pu s'exprimer et il a dit que malgré la chaleur, malgré le travail difficile, il aurait préféré être avec son papa et n'est pas resté dans le confort de la maison. C'était pour lui une occasion de passer toute une journée avec son père. C'est joli, n'est-ce pas? J'ai commencé à réfléchir sur l'amour d'un enfant envers son papa. Un bon papa, allez, comment vous imaginez un bon papa? Il est juste, honnête, il joue avec son enfant, il l'aime profondément. Il s'intéresse à construire une relation saine avec lui. Il ne lui fait aucun mal, d'aucune manière. On espère aussi qu'un bon papa apporte de la protection. Il subvient aux besoins primaires de son enfant, de ses enfants, de la famille en général. Qu'il apporte suffisamment de nourriture, des vêtements, tout ce dont la famille a besoin. Mais dites-moi, est-ce que tout le monde a ou a eu un bon papa? Malheureusement pas. J'ai entendu dire que nous associons l'image que nous avons de notre papa à Dieu. Alors là, c'est mal barré pour quelques-uns, n'est-ce pas? Je veux dire, il faudra peut-être un peu plus de temps et de persistance pour développer une relation correcte avec le Père Céleste, avec Dieu le Père. Une véritable rencontre avec Dieu nous aide à dépasser une mauvaise image d'un Père terrestre. Nous sommes enfants de Dieu, ça on le sait. On nous a toujours dit que Dieu, notre Père Céleste, nous aime. Néanmoins, nous vivons sur terre et sommes entourés par des personnes qui ne sont pas tout à fait parfaites, tout comme nous d'ailleurs. Et j'ai envie de dire qu'un papa ne vient pas au monde déjà tout prêt. Il doit apprendre dans le quotidien et dans la relation avec son enfant à être papa et un bon papa de préférence. Sache que si ton expérience avec ton papa terrestre n'a pas été formidable, il y a un papa au ciel qui rêve d'être merveilleux pour toi. Il souhaite à tout prix te montrer ce que c'est d'être un vrai père. Je peux t'assurer, cher auditeur, que tu ne seras pas déçu, car son amour est inconditionnel, pur, sain et parfait, et cela durera toujours. Et si toi qui nous écoutes, tu es père, demande à Dieu de t'aider à le représenter correctement auprès de tes enfants.
Les soucis fondent sur moi en avalanche.
Mon père prend soin.
Les torrents m'inondent et je ne suis pas étanche.
Mon père prend soin.
Quand autour de moi tout semble contredire ses promesses. Quand le stress envahit mon cœur et m'oppresse, il est une réalité qui ne change pas. Parce qu'elles sont assez larges pour porter tous mes fardeaux. Il se soucie de tous mes besoins. En lui ma vie est assurée. Mon berger me conduit d'un pas assuré. Parce que mon père prend soin. Parce que mon père prend soin. Je ne manquerai.
Apparence.
Parce que mon...
on aime les témoignages, Marilyn. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui sur la paternité de Dieu?
Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a une expérience un petit peu particulière. Il y a certaines décisions et paroles que l'on dit, parfois sous le coup de l'émotion, et qui ont un impact sur notre conscient, subconscient. Ça peut être, par exemple, des promesses qu'on se fait à soi-même. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais je vais vous raconter, en fait, comment Dieu a pu se révéler comme un père à l'égard de cette jeune fille, dans un contexte d'une promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Alors, c'est lors d'un temps de prière très sérieux qu'elle a écrit ceci. « Seigneur, soit c'est lui, soit ce sera personne. » Et cette phrase est pensée, écrite, mais pas vraiment pesée, ni analysée dans la pertinence, la justesse des sentiments qui l'amènent à cette conclusion si radicale. Mais elle est bien ancrée, et bien ancrée. elle va réaliser avec le temps que dire cela n'avait pas de sens et que Dieu ne lui avait pas demandé un engagement aussi radical. Alors, elle va espérer. Dieu va peut-être comprendre et lui permettre de construire quelque chose malgré ce vœu, parce qu'il comprend que c'est pas adapté. Mais ça semble compliqué parce que toujours cette idée, cette promesse revient en tête et impossible de dépasser cette pensée. Alors en étudiant les passages parlant du vœu dans la Bible, elle voit combien Dieu prend au sérieux les promesses qu'on lui fait. Et ça, eh bien elle se demande, est-ce qu'elle est condamnée à rester célibataire toute sa vie? Il y a quand même une solution qu'elle trouve dans Nombre 30 au verset 4. Si une jeune fille fait un vœu à l'Éternel en prenant un certain engagement pendant qu'elle habite encore chez son père et que son père, après en avoir été informé, n'y objecte pas, ses vœux et ses engagements seront valables. Mais si son père la désapprouve le jour où il en est informé, aucun de ses vœux et de ses engagements qu'elle se sera imposé ne sera valide. Il ne lui sera pas tenu rigueur d'avoir manqué à sa parole puisque son père a annulé ses vœux. Elle tente, mais elle réalise quand même qu'attendre que de son père reste une compréhension et une opposition ferme sans lui expliquer ni le contexte ni son attente, et ça ce serait de la triche, c'est s'exposer à ce qu'il ne se passe rien. Alors quelle solution? Un soir, alors qu'elle prie sur cette situation, c'est le déclic. Elle repense à la prière enseignée par Jésus à ses disciples. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais c'est vrai, le Dieu Tout-Puissant s'est aussi présenté comme Père, et ceux qui croient en lui et l'accueillent sont ses enfants. Mais alors, et si elle faisait appel à ce Père? Lui, il aurait l'autorité, mais aussi la compréhension des enjeux, des raisons de ses paroles, et il pourrait agir comme le Père dans le texte. Alors de tout son cœur, elle se présente comme fille et s'adresse à ce Père aux cieux. Elle lui présente cette situation dont elle se retrouve prisonnière. Et vous savez quoi? Eh bien, cette prise de position a suffi à faire tomber cette parole qui lui revenait tout le temps concernant ce vœu.
Waouh!
Ce jour-là, la figure de Dieu comme un père est devenue vraiment réelle pour elle parce que c'était sa seule solution. Face à ce blocage, Dieu devait se révéler être père. Et avec un père terrestre dont elle ne pouvait pas attendre la science infuse d'une autre époque, eh bien, elle a pu connecter quelque chose de concret avec ce père céleste qui l'a libérée de ses paroles. Et plus jamais, ces mots prononcés dans sa jeunesse ne sont venus la déranger. Alors, c'était une partie de cache-cache dans sa vie avant, remplie de l'espérance que Dieu veuille bien la laisser se marier malgré ses paroles. Mais maintenant, elle était libre. Et tout au long de la suite de son parcours, elle a pu continuer à expérimenter la réalité d'un père dans les défis, les tremblements de vie qu'elle a pu affronter. Et grâce à cette première expérience, eh bien, elle a continué à se tourner vers ce père qui l'avait entendu, comprise, libérée, et qui était une solution viable parce qu'il s'était montré présent quand elle en avait besoin, et il a continué de se montrer présent par la suite.
Quel que soit le moment, la saison, si infime que soit la raison, viens devant. Viens devant le Père. S'il connaît de nos cheveux le nom, il n'est rien qu'il ignore de nos ombres. Alors viens, viens devant le Père. Même quand il n'y a rien à dire, que les mots ne pourraient que trahir, viens devant,
devant le Père. Il connaît de nos vies les méandres. Il n'est rien qu'il ne saura entendre. Alors viens, viens devant le Père. Rentre chez toi. Que ce soit dans la joie, la colère, ou qu'on soit des milliards sur la terre, viens devant le Père. S'il connaît les planètes, le nombre, il n'est rien de nos vies qui l'encombre, alors viens devant le Père. Rentre chez toi. Malgré la peur de ne rien sentir, viens devant le Père. Et si dur que soit le premier pas, ce fut lui qui l'a fait sur la croix. Alors viens devant le Père. Rentre chez toi, derrière ta porte, et là, laisse entrer la lumière. Tu seras trouvé par le Père.
Maintenant, c'est à ton tour, Rosemélène, je te laisse la parole. Un Dieu Père, pourquoi faire ?
Je me réjouis, Mildred, de pouvoir partager avec vous cette thématique. Alors, je ne suis pas venue les mains vides, j'ai rapporté quelques petites choses.
Ah, qu'est-ce que c'est tout ça ?
Alors, j'aimerais savoir à quoi cet objet correspond selon vous.
Qu'est-ce Alors, que c'est ? Physiquement, c'est un miroir.
Est-ce qu'il y a un piège ?
Pas tant. Un miroir. À quoi ça sert un miroir ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les miroirs ?
Bah, il nous renvoie à notre image.
Oui, effectivement. Alors, est-ce que...
On peut se voir si on est joli ou pas, si on est bien habillé, bien coiffé.
Oui,
il y a des tâches.
Effectivement. Alors, pour nous, les femmes, c'est assez récurrent. Hein. On se regarde, oui, on aime être coquettes. les hommes aussi, hein, je précise. Est-ce que je peux, en me regardant dans le miroir, voir absolument toutes les facettes de qui je suis ?
Ah non.
Non. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ?
Il faut le tourner.
Comment ?
Se tourner, voilà, le changer de sens, le mettre un peu en avant, le rapprocher. Et puis, qu'est-ce que vous observez par rapport à ce miroir ?
Ah, celui-là, il est grossissant.
Il est grossissant, effectivement. Alors, il y a plusieurs formes de miroirs, il y a plusieurs types de miroirs. Il y a des miroirs effectivement grossissants, d'autres qui sont des miroirs brisés, des miroirs réduisants, des miroirs propres, sales.
Ronds, carrés.
Exactement, en termes de forme, il y a toute espèce de type de miroirs, des lettres, des objets qui sont représentés par les miroirs. Très, très bien. Ensuite, j'ai rapporté un autre objet. Qu'est-ce que c'est selon vous?
Une pierre, un galet.
Un petit galet, une petite pierre, un petit caillou. Il est de quelle couleur? En fait, plus ou moins.
Ouais, gris, blanc.
Il est blanc. Très, très bien. Et puis, j'ai rapporté cet ouvrage.
Ah, je connais celui-là.
Ah, celui de Boris Cyrulnik. Il est intéressant parce que Boris, qui est neuropsychiatre, s'interroge et part à la recherche de la notion de Dieu en l'homme. Il s'interroge, qu'est-ce qui finalement crée cet éveil à la spiritualité, cet intérêt pour le divin. Et puis, un troisième livre de Franz Kafka, qui lui va écrire une longue lettre à son père. Cette lettre est intéressante parce que, eh bien, elle est réquisitoire. Il met son père face à toutes les émotions, tous les sentiments, tout son ressenti par rapport à ce père qui a été, somme toute, quelqu'un de puissant et même de tout puissant dans sa vie avec les répercussions et les conséquences qu'il a pu expérimenter. Je vous invite donc à le lire, il est fort intéressant.
Ah, sympa, merci.
N'est-ce pas? Et puis, vous allez voir que par la suite, au fur et à mesure de cet échange, puisque nous allons parler ensemble, vous allez comprendre pourquoi j'ai ramené ces objets. Alors, une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez Paul Van Aver?
Malheureusement pas.
Qui est-il? Alors, moi non plus, je ne connaissais pas son nom, son vrai nom.
Ok.
Par contre, son nom d'artiste, oui. Et sans doute, vous le connaissez. Stromae.
Ah, ok.
Voilà.
Là, c'est plus clair.
C'est plus clair, en effet. Alors, il faut savoir qu'en 2013, il a été numéro 1 des ventes avec son deuxième album, Papa Outé. D'accord? Un chant qui a fait fureur, d'ailleurs. Mais ce chant est en réalité un exutoire. Il a exprimé son expérience face à l'absence de son père. Et donc, ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant, c'est qu'il utilise un titre qui est assez interpellant, mais en réalité, c'est un petit jeu de mots, d'accord, qu'on appelle un trompe-oreille, parce que ce titre a deux sens. Dans un premier temps, ça signifie effectivement « Papa Outé », cette question qu'un enfant peut poser ou que nous pouvons nous poser. Et puis, il y a le verbe « en papaouté » qui vient de l'argot, qui signifie duper quelqu'un, tromper, escroquer. Donc, trahir. D'accord? Donc, en réalité, rien qu'avec le titre, il est en train de dire « voilà toutes les blessures que j'ai eues. J'ai eu un père, certes, mais un père blessant. » Un père qui m'a abandonné, un père qui m'a trahi. Et puis il va dire lors d'une interview qu'il a vu dans toute sa vie son père apparemment uniquement une quarantaine de fois. Wow. Donc effectivement, sa situation, on peut comprendre pourquoi il a voulu chanter, mettre par écrit ce chant. Alors, le souvenir du père que nous pouvons avoir peut être autant épanouissant pour certains, et puis pour d'autres, plutôt décevant. Il peut générer autant de gratitude, autant de joie, d'épanouissement, donc en termes d'émotions, que de souffrance et d'émotions négatives.
Ouais, même de la rage.
Même de la rage, de la colère. Aujourd'hui, donc, je vous propose de nous interroger sur cette paternité de Dieu, ce qu'elle nous apporte réellement. D'où le titre « Un Dieu Père, pour quoi faire ?» Alors bien sûr, la notion de paternité divine jalonne le texte biblique, et particulièrement dans le Nouveau Testament. On se rappelle de Jésus qui va apprendre à ses disciples à prier et qui va dire « Notre Père qui es aux cieux ». Et puis Jésus qui va prier personnellement, il va dire « Abba Père », ce terme tellement tendre, enfantin, d'un être qui se tourne vers son Père chéri. Moi, aujourd'hui, je vais vous inviter à considérer le texte d'Éphésiens, d'accord ? Éphésiens 3, versets 14 à 15, et je vous invite à le lire avec moi. Il dit ce qui suit. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. » L'auteur de cette lettre, rédigée autour de l'an 60 à 63, propose à ses lecteurs de considérer le dessein de Dieu. Éphésiens 1, verset 9, et par extension celui de Christ, Éphésiens 3, verset 4. Ce projet, jusqu'alors mystérieux, est révélé. Il consiste à réunifier l'univers entier par l'intermédiaire d'une réconciliation cosmique et de récupérer par adoption les êtres humains, Éphésiens 1, verset 5. Tout ceci se faisant sous la médiation de Christ. Ce dessein révélé est tellement éblouissant, tellement stupéfiant qu'en réaction, épris d'une immense gratitude, notre auteur se voit poussé à la révérence. Il va fléchir les genoux. Ce faisant, il commence sa déclaration donc par une adoration à Dieu qui étonne pour son initiative. Ce Dieu n'est d'ailleurs pas n'importe qui, il est Père, et bien plus, le Père, dit Paul. Dans l'absolu. Cette paternité n'est pas circonscrite à la nation d'Israël, ni même à notre situation de croyant. Dieu est de fait et de manière universelle et non discriminée le Père, et il va utiliser le ton patera en grec, de toute paternité, passa patria en grec. L'auteur illustre d'ailleurs son propos en se servant d'une paronomasie. Qui consiste, écoutez bien, à utiliser une similitude sonore de mots, tout comme Stromae l'a fait avec son papa Outé, on s'en rappelle, et il va donc juxtaposer pater et patria de façon presque successive afin de donner une certaine origine sémantique à la déclaration qu'il souhaite nous proposer. Par ce jeu de mots, donc étymologique, il va créer une interdépendance entre les deux termes. Alors, pater pour le père et patria. Patria, il est à noter qu'on le traduit par famille, par du moins paternité, mais en réalité, il peut se traduire par famille, par clan, par tribu, par caste, race, descendance, lignée, etc., etc. Donc, lorsque il rapproche ces deux thèmes, pater et patria, il va donc nous donner une indication particulière. Dieu, selon l'auteur, est le modèle idéal de la fonction paternelle. Il est la souche par laquelle toute famille, tribu, peuple, bref, toute formation sociale naturelle existe. Par sa paternité, Dieu, il s'intéresse non seulement à l'homme, mais à toute la création. Paul dit « les familles dans les cieux et sur la terre ». Et donc, en utilisant cette notion de patria sur terre et dans les cieux, Paul nous rapproche ou nous ramène à la notion de création. Dieu est Père car il crée. Il crée, il est le point de départ, l'origine de toute existence, que ce soit celle que nous connaissons, que celle que nous ne connaissons pas. Il est le Père parce qu'il fait naître le Père comme le Fils. Et dans sa main se trouve la vie de toute chose vivante et l'esprit de tout être humain, selon Job 12, verset 10. Donc, ce mystère révélé, d'un côté, nous repositionne dans une filiation et un sentiment d'appartenance qui a pour but de déraciner en moi toute forme de dignité, de mauvaise estime de soi, tout sentiment d'abandon et de rejet que pourraient laisser les blessures émotionnelles dues à notre père humain. C'est intéressant parce que lorsque je considère mon histoire, si j'ai eu un père bon, je peux effectivement envisager un père céleste positif. Si j'ai eu un père défaillant, ça peut être effectivement biaisé, ma relation à Dieu peut être biaisée. Cela signifie que lorsque je suis enfant, lorsque je suis adulte, dans mon parcours de vie, eh bien cette notion de père céleste est importante à considérer. J'ai besoin, en tant qu'enfant, d'une véritable figure paternelle, d'un modèle de paternité ou même d'un substitut paternel. Et Dieu est présenté donc par Paul comme étant de facto le Père, celui qui me crée, celui duquel je suis à l'origine. Au début, je vous ai présenté ce miroir, vous vous en souvenez?
Oui.
Parce qu'en réalité, le miroir me permet de voir ou de projeter l'image qui est devant moi. Si je suis un enfant, si je suis un adulte, dans mon chemin de vie, j'ai besoin d'un modèle, j'ai besoin d'une véritable figure paternelle et Dieu incarne cette figure paternelle. Tout comme le miroir que j'ai présenté tout à l'heure, eh bien, qui me permet de me voir, de voir effectivement si j'ai des imperfections, mais qui, en fonction de sa forme, en fonction de, du type de miroir que j'ai, s'il est brisé, s'il est grossissant, s'il est réduisant, s'il est déformé ou sale, tout simplement, il va biaiser mon rapport à moi-même, le regard que j'ai sur moi. Et je pourrais être tentée de me dire, eh bien, voilà, Rose, peut-être que tout va bien. Ou bien peut-être que ça ne va pas parce que voilà, je vois juste un morceau de moi. Et donc, la paternité, finalement, comme Paul nous la présente, nous permet finalement de réajuster notre regard sur non seulement cette notion de paternité, mais également notre regard sur Dieu. Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons des blessures. Nous avons également vécu de très, très belles expériences avec nos pères terrestres, nos pères humains, nos géniteurs. Et force est de constater que nous avons cette habitude de transposer sur Dieu ce Père. Et Paul dit non, je veux déconstruire en fait cette vision que vous avez de Dieu. Ce Dieu n'est pas le résultat de finalement de cette projection de votre Père. Il est le Père dans l'absolu. Et il est Père parce qu'il crée, ce qui signifie que c'est à partir de lui que tout commence. D'accord? Alors, effectivement, lorsque nous nous rapprochons de cette notion de paternité de Dieu, nous assumons que Dieu nous accueille dans une paternité qui est tout autre et qui vient finalement faire rupture à nos projections naturelles de notre expérience humaine, paternelle et même parentale. Parce que quand Dieu crée, il crée le père, il crée la mère, il crée l'enfant, il crée la famille. Chose intéressante, c'est que Dieu est également Père selon la déclaration de Paul, car il nomme. Ça veut dire quoi en réalité? Qu'est-ce que pour vous donner un nom à quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez une petite idée?
Ah, déjà, c'est pas facile hein, de donner le nom à quelqu'un.
Ça, c'est vrai. Je pense que comme tu es maman, tu comprends bien cette réalité. Eh bien, savez-vous que dans le jargon sémitique ou dans la vision, en tout cas, hébraïque de l'auteur, donner un nom a deux significations particulières. Premièrement, ça sous-entend que celui qui nomme est au-dessus ou supérieur à celui qui est nommé.
Il est le responsable.
Il est le responsable, exactement. Et puis, celui qui nomme, en nommant, il donne une identité, il donne une dignité, un honneur à la personne qui est nommée. L'être humain, dans la déclaration de Paul, est passif. Il subit l'action d'être nommé. Et donc, cet acte étranger à sa volonté fera de lui quelqu'un d'autre. Et nous allons le voir au fur et à mesure. Alors, bien sûr, dans cet acte de nomination, Paul également sous-entend autre chose. Dans le langage juridique de l'époque, donc dans la loi romaine, donner son nom était synonyme d'adoption et d'acceptation. Alors, il faut savoir que lorsqu'un enfant naissait, ce n'est pas comme dans nos sociétés où on se réjouit, on lui donne un nom, on est content. Le père devait, pendant une certaine période donnée, décider, réfléchir si oui ou non il acceptait cet enfant comme étant sien et comme pouvant bénéficier de cet honneur d'obtenir son nom.
Ça ne devait pas être très confortable pour la femme. Hein?
Ça ne l'était pas du tout et pour les enfants aussi, parce que certains enfants étaient soit malades, soit handicapés, soit fragiles et donc ils étaient d'office considérés par leur père comme n'étant pas siens. Et donc, ses enfants étaient lâchés, laissés sur le bord de la route.
Oh, c'est horrible.
Ce n'est pas notre réalité, bien évidemment, mais on comprend que lorsque Paul parle de cette notion de nomination, Dieu, il nous donne son nom, ça signifie que Dieu voit en nous qu'on a de la valeur. Il veut nous accepter. Et donc, non seulement il donne le nom, mais en donnant ce nom, il accueille cet enfant et il l'adopte. Nous, on a cette impression qu'adopter, c'est « bon, cet enfant n'est pas le mien, je donne une chance à un autre enfant de pouvoir grandir dans une famille. » Alors que dans la pensée romaine, j'adopte mon enfant, celui qui vient de moi, parce que je décide qu'il mérite d'avoir mon nom. Et donc, Dieu, dans cette déclaration de Paul, nous donne une valeur certaine. Il voit en nous des êtres précieux. Il va nous réhabiliter, donc tout au long de ce livre des Éphésiens, Paul va parler de ce Christ, de ce mystère dont je vous ai parlé au départ, dans lequel Christ va réconcilier avec Dieu toutes les créatures. Et donc, c'est dans cette réconciliation que Christ nous adopte. Dieu est Père, donc, parce qu'il nous crée. Dieu est Père parce qu'il nous donne son nom. Dieu est Père parce qu'il nous adopte. Et donc, par conséquent, lorsque je m'intéresse à cette notion de paternité, je me dis que toutes mes expériences de vie sur Terre, mon rapport avec mon père, avec ma mère, toutes ces fêlures, ces brisures que j'ai en moi, eh bien, en Christ, tout a une autre valeur. Christ nous donne la possibilité de comprendre que Dieu nous permet de dépasser, voilà, toutes ces blessures. Et puis, en nommant ces créatures, après la réconciliation par Christ, Dieu les adopte, les accueille à nouveau et leur offre une dignité. Il authentifie l'acte de reconnaissance et prouve par l'état civil que l'enfant égaré était pourtant légitime. Dieu nous réhabilite au point que il nous dit donc dans Apocalypse 2, verset 17, « Qu'à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc.
Ah.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Par conséquent, Dieu nous reçoit tous et il nous propose de changer notre origine, de changer notre destinée et de nous rattacher à ce Dieu qui nous crée, qui nous accepte et qui nous adopte. Voilà pourquoi il est notre Père.
Je te remercie, Rosemélène, pour ce beau partage biblique. C'était vraiment très émouvant et cela va résonner dans nos cerveaux pendant longtemps.
Alors, je vais partager avec vous pour cette chronique « Dieu dans les arts » un film. Un film qui m'a été conseillé et que je l'ai vu tout récemment. Il s'appelle « Lettre à Dieu ». C'est la vraie histoire de Tyler, un jeune garçon qui lutte contre le cancer. Ce garçon de 8 ans est bien entouré par sa maman, par son grand frère, par sa grand-mère et aussi par ses amis. Mais j'ai l'impression que l'ami avec qui il discute le plus souvent est Dieu, est le Père du ciel. Chaque jour, il écrit des lettres à Dieu. Tyler fait la connaissance du facteur remplaçant qui a, lui, de son côté, une vie plutôt compliquée, mais rapidement, ils deviennent des amis. Voilà un enfant qui inspire l'espoir et le courage à tous ceux qui l'entourent. Ses lettres vont toucher la vie de son quartier et de sa communauté. Voici la bande-annonce pour te donner envie de regarder ce film.
Je pensais que vous étiez déjà loin.
Il faut quelqu'un de bien à Lester. Ça fait 10 ans que je fais cette tournée. J'ai été élu meilleur facteur 7 fois de suite et c'est pas fini.
Je sais, Walter, mais le choix est restreint en ce moment.
Pourquoi pas Trevor, le petit nouveau?
Il est encore moins rapide qu'une limace, lui.
Ok.
Elle est en congé de maternité pour encore un mois et je vous signale que Pete vient de se faire opérer du genou. Écoutez, Walter, on va se débrouiller. Vous rêviez de prendre ce congé sans solde, vous l'avez mérité. Alors profitez-en. Je vous trouverai un bon remplaçant, je vous le promets.
D'accord. Mais il vaut mieux que vous sachiez certaines choses. Au 237, le vieux monsieur Cornelius Perryfield, il ouvre sa boîte aux lettres tous les jours à la même heure.
Au revoir, Walter.
C'est son périple quotidien, et si le courrier est en retard, il appellera pour se plaindre. Et le chien des piqueurs, au 231, il risque de lui sauter à la gorge s'il ne sait
pas... Walter, fichez le camp.
D'accord. Une dernière chose.
Oh, Seigneur, ayez pitié de moi.
Regardez ces enveloppes. 244 rue des Lauriers. Je ne peux pas les jeter. Et il y en a chaque jour de nouvelles. C'est comme trouver un chaton sur le pas de sa porte. On ne peut pas s'en laver les mains.
Je vais m'en occuper, Walter. Rentrez chez vous.
Je reste en ville, alors appelez-moi en cas de besoin.
Trouvez-vous une occupation. Ou plutôt, trouvez-vous une femme.
Ça me donne envie de le revoir. Ce film est très enrichissant et nous invite à garder la foi en Dieu quoi qu'il arrive. On sait que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas des circonstances qui nous entourent ou que nous traversons. Oui, cher ami qui nous écoute, tu es l'enfant désiré du Père. Tu es une perle de grande valeur pour lui.
Ah, c'est le moment tant attendu de ma chronique préférée. Je veux parler de questions et vérités. Ma chère Rosemélène, pour que l'on puisse mieux te connaître, j'aimerais te poser quelques questions en rapport avec ta vie chrétienne. Tu pourras me répondre en quelques mots. Es-tu prête ?
Oui.
Qui est Dieu pour toi ?
Mon confident.
Waouh, wow, ouais. Ça c'est magnifique, c'est droit au but, très bien. Quel nom utilises-tu naturellement pour t'adresser à Dieu ?
Tendre Père.
Waouh, oh, c'est beau ça. C'est vrai, nous avons une chroniqueuse qui s'adresse souvent à Dieu comme mon Père, et je trouve magnifique tout ça.
Est-ce que tu aurais une expérience vécue avec Dieu que tu voudrais partager avec nous ?
Alors oui, les expériences sont légion. Il y a une qui me vient. J'étais hospitalisée au mois d'avril dernier, donc il y a à peu près un an de cela. Et le séjour était tellement douloureux. On m'avait diagnostiqué une thrombose et une embolie pulmonaire. Et donc, j'étais jeune, donc ça a posé énormément de questions. Et il a fallu m'opérer. On m'a opérée par anesthésie locale. J'ai tout ressenti. J'hurlais dans la salle d'opération. C'était terrible. Et dès le lendemain, il fallait que je rentre chez moi parce que c'était le temps Covid. Et donc, on n'a pas de place. Il n'y a pas de lit pour garder les malades. Et donc, je me suis retrouvée chez moi. C'était un samedi. Et à peine l'ambulance m'a déposée, je me suis rendue compte que j'étais complètement impuissante. Pas de force, pas d'énergie. Impossible de me lever pour faire quoi que ce soit. Et j'ai crié à Dieu, à mon tendre Père. Et ce jour-là, il m'a donné ce texte qui m'a beaucoup fortifiée. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ce jour-là, je me demandais pourquoi j'étais encore vivante, parce que les médecins se demandaient, comment se fait-il qu'avec une embolie pulmonaire, avec une thrombose, avec tout cela, vous soyez encore en pleine forme, en santé. Et j'étais presque dans le reproche à Dieu, pourquoi tu m'as maintenue en vie alors que d'autres personnes, pour moins que ça, ils décidaient. Et Dieu m'a donné ce verset qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà.
Oh, wow. Ah, c'est impressionnant. Merci pour ton partage.
Voici venu le temps de la prière, le temps de remercier Dieu, de lui demander des bénédictions ou de nous pardonner. Avec le thème de ce culte, la prière du Notre Père me paraît évidente. J'ai choisi de la dire dans une version toute personnelle. Prions. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite par les hommes et aussi par les anges. Donne-nous notre nourriture physique, mais également spirituelle, afin que nous en soyons rassasiés quotidiennement. Efface nos péchés grâce au précieux sang de Jésus, et aide-nous à pardonner à nos frères. Éloigne-nous de la tentation et ne laisse pas le tentateur nous approcher. Car à toi sont le règne, la puissance, la gloire, l'honneur, la louange et toute autre chose, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Alors, pour cette chronique action, je vous propose de travailler justement un petit peu sur la réalité de ce Dieu Père pour nous, en lien avec le lien du Père qu'on a pu avoir. Alors, je te propose de prendre un moment tranquille et sur un papier, d'écrire les caractéristiques que ton Père a pour toi, la représentation que tu as d'un Père. Et si tu n'as pas eu de Père, tu peux écrire ce que tu as projeté, espéré, ce que tu attends d'un Père. Et puis ensuite, prends un autre papier et écris les caractéristiques que tu connais et que tu découvres au fil de temps de Dieu comme ton Père. Et pour chacune de ces caractéristiques, je te propose un défi. Notez au moins un texte biblique qui appuie cette description. Et puis je t'invite à prier et demander à Dieu de continuer de se dévoiler à toi comme un vrai Père, comme le vrai Père qu'il est et qu'il veut être pour toi aujourd'hui. Et tu peux aussi lui demander qu'il te montre combien tu es cet enfant bien-aimé pour lui. Alors à tes stylos et garde les yeux ouverts.
Alors prenons nos stylos et au travail. Rosemélène, merci beaucoup pour ton partage biblique. Merci pour le temps que tu as investi dans la préparation de ceci. Cela nous a beaucoup touchés. Mes amis chroniqueurs, bravo pour vos sélections et vos partages. On se retrouve bientôt pour un autre culte espoir.
Eh oui.
Merci, cher auditeur, pour tes messages d'encouragement et pour ton soutien. Continue avec nous sur espoir-radio.com ou encore sur la version filmée sur la chaîne YouTube Espoir Média. Souviens-toi, Dieu t'aime et rien au monde ne pourra te séparer de son amour.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.